La sociologie de la vieillesse considère que la vieillesse est avant tout une expérience sociale, c'est-à-dire que c'est une expérience vécue, pas seulement par les personnes âgées elles-mêmes, mais aussi par leur entourage familial.
Bienvenue dans Enquête d'humanité, le podcast de la Fondation Croix-Rouge française dédié à la recherche humanitaire et sociale. Crise sanitaire et délitement du lien social, changement climatique et catastrophe, exclusion, exil et accueil à travers les territoires, le 21e siècle nous apporte son lot de défis à relever. Des enjeux majeurs que nous vous proposons ici d'explorer avec celles et ceux qui au quotidien y répondent. Ce sont les chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Des rencontres authentiques et éclairantes, présentées par Vincent Léger. Bonne écoute.
Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lauriane Dos Santos, docteur en sociologie et post-doctorante à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, qui en 2022 a conduit une recherche sur l'isolement social et la précarité des personnes âgées en Polynésie française. Alors, la Polynésie française est confrontée au vieillissement continu de sa population depuis les années 80. L'incitation au maintien à domicile des personnes âgées et au care familial, vous nous l'expliquerez Lauriane, constitue la ligne directrice de la politique du pays dans ce domaine. Alors, pionnière sur ce territoire, votre recherche documente et analyse leurs conditions de vie dans ce contexte. Elle révèle notamment que le maintien à domicile et la prise en charge familiale exposent les personnes âgées à des formes spécifiques d'isolement social et de précarité. Et en témoignant de l'expérience vécue de la vieillesse à domicile, vous mettez en lumière les risques sociaux liés à la politique du care familial dans ce contexte. L'intérêt de vos résultats dépasse néanmoins ce seul cas d'étude pour s'inscrire plus en profondeur dans une réflexion sur les limites des solidarités familiales comme socle prédominant, voire exclusif, d'une politique sociale de la vieillesse. Alors Lauriane, pouvez-vous me présenter rapidement votre formation et les différentes étapes de votre carrière qui vous ont mené à votre poste actuel aujourd'hui ?
Oui, alors j'ai fait un master recherche en sciences sociales à l'EHESS Paris et j'ai fait directement mon doctorat en sociologie sous la direction de Serge Pogam. À l'époque, je faisais ma thèse sur le Brésil, dans la région amazonienne plus particulièrement, où j'observais au quotidien le travail social et le travail judiciaire qui étaient proposés au sein d'un tribunal itinérant qui allait en fait résoudre les conflits familiaux, les conflits de voisinage, les conflits de terre dans les villages assez reculés de la région amazonienne. J'ai donc soutenu ma thèse en décembre 2019. Et ensuite, j'ai été recrutée en tant que post-doctorante à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique pour mener une recherche sur les violences intrafamiliales envers les personnes âgées et handicapées en Polynésie française, dans un contexte où il existe très peu de structures dédiées et très peu d'accompagnement professionnel, et où en fait l'essentiel de la prise en charge repose sur la famille, le dévouement de la famille, avec des aides ponctuelles de la part du pays, de la Polynésie française. L'intérêt certainement de la sociologie de la vieillesse, c'est de concevoir la vieillesse pas seulement d'un point de vue biologique avec la déterminante de l'âge, pas seulement d'un point de vue sanitaire comme ont pu le faire des thèses en médecine par exemple auparavant. Et en fait, pour ma part, j'ai pas vraiment inscrit mes travaux dans la perspective d'une sociologie de la vieillesse, mais plutôt dans la perspective d'une sociologie du lien social et des solidarités. J'ai essayé de comprendre en quoi la vieillesse pouvait être appréhendée à partir de toute la sociologie qui a été développée notamment par Serge Pogam, et il s'agissait notamment de comprendre comment la vieillesse mettait à l'épreuve l'ensemble des liens sociaux en fait.
Si je vous demandais qu'est-ce qu'être vieux en Polynésie française, comment est-ce que vous pourriez nous décrire, surtout pour ceux d'entre nous dont je fais partie, qui nous écoutent, qui ne sont jamais allés là-bas?
Alors c'est intéressant comme question, puisque quand on pose cette question en Polynésie française, la personne âgée, elle est avant tout associée à la figure de l'aîné, une figure traditionnelle. En tahitien, on dit matahiapo. Et traditionnellement, la figure du matahiapo, de l'aîné, elle est surtout investie d'un fort pouvoir symbolique. C'est-à-dire que l'aîné, c'est la figure politique même, qui a un pouvoir sur la manière dont on va répartir les terres, la manière dont on va éventuellement résoudre les conflits au sein de la famille, la manière dont on va raconter l'histoire de la lignée, du lignage ou du clan familial. Donc en fait, c'est un rôle social important. quand on est sur le terrain, en fait, on se rend compte que ce discours générique sur la vieillesse associée à l'aîné, en fait, il a totalement occulté toute une diversité de la vieillesse telle qu'elle existe aujourd'hui, où on a des conditions telles que celles de la perte d'autonomie, de la dépendance, qui changent totalement le statut et le pouvoir symbolique associé à la vieillesse.
Il était donc essentiel pour vous d'étudier les relations intergénérationnelles, les solidarités intrafamiliales, pour comprendre la situation de ces personnes âgées, parce que le principal filet de sécurité réside là, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Il y a à peu près 200 personnes âgées aujourd'hui qui sont dans des institutions, dans des structures dédiées, ce qui est très peu. Donc en fait, pour comprendre la situation des personnes âgées en Polynésie française, on ne peut pas du tout adopter les grilles de lecture qu'on a en métropole. Donc il y a une forte incitation à ce que ce soit les familles qui prennent en charge les personnes âgées. Et dans un contexte où il y a une transformation de la famille et avec un modèle familial qui tend de plus en plus vers le modèle de la famille nucléaire, c'est-à-dire du couple de parents avec leurs enfants, alors que jusqu'à présent, ce qui prédominait, c'était les foyers multigénérationnels, donc il était très fréquent jusqu'à il y a très peu de temps, et aujourd'hui encore, ça représente à peu près 50% des configurations résidentielles, c'est que sous un même toit vivent au moins trois générations d'un même réseau de parenté, donc les enfants, petits-enfants, grands-parents.
On parle des EHPAD hors les murs, EHPAD à domicile, pour aider les personnes âgées, même dépendantes, qui souhaitent demeurer chez elles à le faire, tout en luttant contre les risques d'isolement social éventuel. Est-ce que voilà, vous verriez dans le modèle polynésien, à l'inverse, des sources d'inspiration pour le modèle en France de prise en charge des personnes âgées et leur dépendance ?
C'est toujours intéressant de comparer les différentes expériences, mais à mon avis, il faut vraiment penser les besoins des sociétés à partir du terrain et des spécificités de chacun. Et donc, en fait, ça nous amène à questionner finalement qu'est-ce que le bien vieillir ? Est-ce qu'on peut avoir une définition générique de qu'est-ce que bien vieillir ? Puisque moi, ce que j'ai observé sur ce terrain-là, c'est pas forcément le cas à Tahiti, mais en tout cas dans les autres îles qui sont restées plus rurales et moins urbanisées, c'est que bien vieillir, c'est avant tout vieillir auprès des siens, en étant là pour eux et en subvenant aussi à leurs besoins. Et c'est pas forcément, en fait, être à tout prix en bonne santé ou bénéficier d'une prise en charge médicale optimale.
Quels sont les principaux résultats de votre recherche ?
Il y a plusieurs résultats à cette recherche. Je peux en mentionner deux principaux. Le premier résultat était de voir que, en fait, ce qu'on nous disait souvent en lien avec la Polynésie française, c'est que le gouvernement, notamment du pays, se glorifiait que seulement 13% des personnes âgées vivaient seules, alors que par exemple, en métropole, 31% des personnes âgées vivent seules. Et donc, en fait, ce seul chiffre statistique permettait un peu de justifier l'idée qu'il y avait moins de solitude, finalement, moins d'isolement social des personnes âgées en Polynésie française. Un des résultats de la recherche consiste à nuancer cette affirmation, puisqu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des formes de délaissement au sein des domiciles qui prenaient des formes diverses. Par exemple, c'était le fait de rendre visite à une personne âgée dépendante qui était cantonnée à une pièce du domicile, de lui rendre visite uniquement aux heures du repas, avec des interactions familiales qui peuvent être minimales. Parfois même avec des repas qui ne sont pas donnés systématiquement, donc seulement un repas par jour, par exemple, quand on a le temps. Ce que j'ai vu également, c'est que dans la consultation des dossiers d'enquête sociale auprès des services sociaux de la Polynésie française, le plus grand nombre de signalements de violences sur la population que j'étudiais, la population des personnes âgées et notamment gardées à domicile, concernait le délaissement, justement, qui est une catégorie utilisée par les services sociaux. Et ce délaissement, il prend donc des formes diverses. Donc, en fait, un des résultats de la recherche consistait à voir qu'il fallait arrêter de considérer que la configuration résidentielle, c'est-à-dire le fait de vivre avec quelqu'un, nous donnait la mesure de l'isolement social et du sentiment de solitude réellement vécu. Donc ça, à mon avis, c'est un résultat assez important à donner. Un deuxième résultat de l'enquête concerne plutôt le volet précarité. Et donc là, il y a eu un résultat assez étonnant, enfin en tout cas auquel moi je ne m'attendais pas. qui est que j'ai vu assez peu de personnes âgées en situation de précarité et de pauvreté. En fait, ce que l'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs métropolitains qui ont été adoptés localement. Le minimum vieillesse, mais aussi le dispositif de l'aidant familial, sont par exemple deux dispositifs qui existent en Polynésie. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que ce n'étaient pas les personnes âgées elles-mêmes qui étaient précaires ou pauvres, mais ce sont les contextes familiaux, les familles en fait, dans lesquelles elles sont insérées, qui sont en situation de pauvreté et de précarité. Alors, je rappelle que la Polynésie française, depuis plusieurs années, est en voie de paupérisation avec un accroissement des inégalités sociales. Et en fait, dans ce contexte où il n'existe pas de RSA, par exemple, en Polynésie française, il n'existe pas d'allocation chômage ou ce genre de choses, en fait, les allocations de dépendance pour les personnes âgées, les minimums vieillesse et les pensions de retraite et les pensions de réversion quand il y a un des époux qui est décédé, sont les seuls revenus sociaux dont on dispose.
Sur la base des résultats de votre recherche, qu'est-ce que vous recommanderiez pour améliorer, que leur action soit plus adéquate vis-à-vis de ce contexte particulier?
Je vois plutôt l'orientation des débats à suivre sur la question des dispositifs et vers la mise en place de davantage d'aides pour les familles, pour qu'elles aient réellement les conditions de garder leurs aînés auprès d'eux et d'elles. Puisque en fait, ce que j'ai remarqué, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les familles veulent garder leurs aînés, mais qu'elles n'ont pas toujours les conditions objectives pour le faire dans les meilleures conditions.
Ce que je retiens de votre recherche, c'est que parmi les multiples dimensions du bien-être des personnes âgées, la dimension sociale, les relations sociales familiales, sont très importantes, même presque plus importantes que celles du bien-être physique ou du bien-être matériel. Elles sont prédominantes et surtout, elles ne sont pas du tout expliquées au prisme des arrangements résidentiels qui, on l'a bien compris, sont à prendre avec des pincettes. Ce serait donc pour les travailleurs sociaux une meilleure prise en compte de cette dimension-là de leur bien-être, du bien-être social, psychologique aussi, dans leur façon de travailler avec ces personnes. Ce serait peut-être aussi une meilleure prise en compte de ça.
Oui, tout à fait. Même s'il y a des différences en métropole, entre les régions, etc., en termes de prise en charge des personnes âgées, de conditions de vie sociales et économiques, il ne faut pas oublier que la situation des Outre-mer est vraiment différente. En fait, même les dynamiques de vieillissement ne se sont pas du tout faites au même moment. En fait, on n'a pas une tradition de pensée de la vieillesse et où il est important de créer des connaissances en lien avec les sociétés, les normes culturelles locales, etc., pour penser ces questions-là qui relèvent du travail social et de l'action humanitaire.
Lauriane Dos Santos, merci.
Merci à vous.
C'était Enquête d'humanité, la série de podcasts de la Fondation Croix-Rouge française, présentée par Vincent Léger. Retrouvez cet épisode et ceux déjà diffusés sur Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, ainsi que sur les réseaux sociaux de la Fondation. Ce podcast vous a plu ? Alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt !